chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Le 21 janvier 1793, la mort de Louis XVI. Cet article a été publié le 31 juillet 2015 dans le Figaro Magazine. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Patrice de Méritins. L'assassinat politique de Louis XVI a non seulement aboli le sacré, mais nous a rejetés dans l'amnésie collective qui se poursuit à grand train, avec le remplacement de la nation par le label de la République, analyse l'écrivain Jean Raspail. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les derniers jours vécus par le roi ? Jean Raspail. L'isolement et l'humiliation. L'isolement car on lui a refusé tout contact avec sa famille, sauf à la veille de sa mort, pour un ultime adieu, sous surveillance. Et l'humiliation en l'appelant capé, en le privant de couteaux et de fourchettes pour ses repas, et en finissant par lui lier les mains dans le dos lors de son exécution comme un vulgaire criminel. Cet ultime et précautionneux outrage montrait l'inquiétude de la Convention face à un éventuel retournement de l'opinion. Sur les murs de Paris se multipliaient les placards appelant à un sursaut du peuple. « Peuple, tu dors, et ton roi va mourir, le meilleur des rois. « Ah, réveille-toi, frappe tes ennemis, sauve ton père !» La condamnation à mort n'ayant été obtenue qu'à une seule voix de majorité, 361 contre 360, la Convention avait décidé de hâter les événements. Dimanche 20 janvier, alors que le ministre Gara signifie au roi que le sursis de 3 mois qu'il avait demandé pour se préparer à mourir est rejeté, et que la sentence est exécutoire le lendemain matin, le municipal Botson exulte. « J'avais demandé à venir au temple pour voir la grimace qu'il ferait demain. » Et le municipal Mercereau. « Je ne donnerai pas cette journée pour beaucoup d'argent. » En fin d'après-midi, le roi lit son testament à son confesseur, l'abbé Edgeworth de Firmont. « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis. » Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet et je prie Dieu de leur pardonner. À propos de Philippe d'Orléans, le tristement célèbre Philippe Égalité, qui a voté sa mort et rejeté son sursis, il confie. Je suis bien en peine pour mon cousin. Que lui ai-je donc fait pour qu'il me poursuive ainsi? Mais pourquoi lui en vouloir? Il est plus à plaindre que moi. Avec la nuit noire vient le moment des adieux. La reine paraît, tenant le dauphin par la main. À sa suite, Madame Royale et Madame Élisabeth, fille et sœur du roi. L'entrevue sera surveillée par les révolutionnaires derrière une cloison vitrée. Cléry, valet de chambre de Louis XVI, raconte. On voyait seulement qu'après chaque phrase du roi, les sanglots des princesses redoublaient. Et qu'ensuite le roi recommençait à parler. Madame Royale précisera plus tard, il pleura de notre douleur, non de sa mort. Autour de la prison du temple, alors que la garnison s'est saoulée en beuglant aux barrières et dans les escaliers, l'éclairage des réverbères a été maintenu la nuit entière pour raison de sécurité. Sur ordre de la commune de Paris, les fenêtres des maisons voisines demeureront illuminées, éclairant un sol de boue et de neige fondue où pataugent les patrouilles armées de la garde nationale.
Thank you.
Nous voici à l'aube du lundi 21 janvier 1793, journée funeste que le bourreau lui-même maudit. La veille, Charles-Henri Sanson s'est secrètement confessé à un prêtre jureur qui lui a donné l'absolution pour le crime d'État qu'il s'apprête à commettre et qui le conduira plus tard à laisser son propre fils Henri-François se charger de sa sinistre besogne. Les charpentiers ont monté l'échafaud de la guillotine sur la place de la Révolution, ci-devant, place Louis XV, actuelle, place de la Concorde. Les portes de Paris sont bouclées, interdiction de tout rassemblement et circulation de civils. La cavalerie fait mouvement, roulement de tambour, fracas des charrois de canons. Les bataillons de la garde nationale doivent avoir gagné leur position pour 7 heures. Le roi, quant à lui, a été réveillé par Cléry, son valet, dès 5 heures. Il s'est habillé, a ôté de son doigt l'anneau de ses fiançailles, ainsi qu'un sceau aux armes de France. À 6 heures, Edgeworth célèbre la messe. Cléry a dressé l'autel sur une commode tirée au milieu de la chambre. Les municipaux qui ont envahi les lieux s'opposent à la communion de Louis XVI au motif que l'hostie pourrait être empoisonnée. Puis se retire en exigeant que les portes restent grandes ouvertes. Le roi communie malgré tout. L'hostie n'était point empoisonnée. À 8h30 arrive le général Santerre, commandant de la garde nationale, qui conduit le prisonnier jusqu'à la petite berline verte à 4 places. Louis XVI plie sa haute taille. Il mesure 6 pieds, soit 1m95, pour s'engouffrer dans la voiture en compagnie de l'abbé Edgeworth, avec en face d'eux, quasi genou contre genou, 2 gendarmes, dont l'un est un prêtre défroqué. Dans le froid du matin, les vitres de la voiture s'embuent. L'attelage avance au pas. En tête du cortège, 100 gendarmes à cheval. Puis, 12 tambours qui ne cesseront de battre pendant leurs 3/4 que dure le transfert. 1200 hommes de section escortent la berline. En arrière-garde, 100 sectionnaires à cheval. Peu ou pas de civils dehors, mais une immense et formidable haie de 80 000 hommes sous les armes, dont certains retiennent leurs larmes. Nous voici place de la Révolution. La voiture s'arrête. Le roi en descend sous les cris de haine et de mort d'une populace enragée que la commune a dépêchée sur les lieux du supplice. Mais tous les témoins l'affirment. À la vue de l'étroite machine qui se profile à 2 mètres au-dessus du sol, il ne tremble pas. Il n'a pas blêmi. Repoussant les aides du bourreau, il enlève son habit, défait son col et ouvre sa chemise. Puis, après avoir vivement protesté, consent, en mémoire du Christ, à l'outrage des mains liées derrière le dos. Reste à grimper les marches raides et mal équarries qui conduisent à la machine. L'abbé Edgeworth le soutient. Le roi domine la foule. D'un mouvement, il fait signe au tambour de s'arrêter, lesquels aussitôt lui obéissent. Dans ce subit silence, Louis XVI s'écrie d'une voix qui s'entend jusqu'aux Tuileries. « Peuple, je meurs innocent de tous les crimes que l'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Des soldats pleurent. Le roi veut poursuivre. La foule va-t-elle se retourner? Sancerre tire son sabre, hurle des ordres et reprennent les roulements de tambour qui couvrent les paroles du roi. Le bourreau est immobile, comme hagard. C'est son fils, Henri-François, ainsi que ses aides qui précipitent le condamné dans les sangles. On entend un cri affreux. Samson fait tomber le couperet, jaillit une pluie de sang devant laquelle, horrifié, le confesseur du roi recule. Anéanti par la douleur, l'abbé Edgeworth sera plus tard incapable de préciser s'il a ou non prononcé ces paroles que la postérité a retenues. « Fils de Saint-Louis, monté au ciel, avant que la tête sanguinolente soit présentée au peuple. Il est 10h22. Le sacré s'est retiré à jamais en France de l'exercice du pouvoir. Le roi Louis XVI avait 38 ans.
Thank you.
qu'est-ce que cette exécution a modifié dans le destin de la France ? Jean Raspail répond. Tout d'abord, j'observe que la condamnation de Louis XVI obtenue à une seule voix de majorité, je le répète, permet de douter fondamentalement que le peuple de France ait voulu la mort de son roi. C'est Paris qui a fait la révolution. Paris qui a tué, avec notamment les massacres d'août et septembre 1792. C'est Paris qui a envoyé ses guillotines sur les routes de la province, qui a commandé le génocide vendéen et engagé le pays dans de funestes directions. En abolissant le système monarchique, il a défait les provinces. En instaurant les départements, il a détruit le lien de confiance issu de la féodalité où se pratiquait la protection du plus faible par le plus fort, tandis que s'installait au pouvoir la secte des conventionnels. Ni le Directoire, ni l'Empire, ni la Restauration qui suivront ne compenseront jamais ce bouleversement des mentalités où le pays lui-même a été comme déraciné et vidé de sa moelle. Jean Raspail poursuit. Je rappelle que cet article date du 31 juillet 2015. Emmanuel Macron, le plus atypique de nos ministres, il était encore ministre au moment où l'article apparut, l'observait dernièrement. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes notamment. Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. Fin de la citation d'Emmanuel Macron. Le président, tel que l'a établi la Ve République, ne saurait remplacer la symbolique du monarque, poursuit Raspail. D'où la permanente interrogation sur la figure élyséenne qui prévaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, précise encore Emmanuel Macron, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout s'est construit sur ce malentendu. Il n'y a pas si longtemps, un grand chancelier de la Légion d'honneur, émérite aujourd'hui, me confiait. Quand je reçois aux Invalides le chef de l'État pour saluer les dépouilles des soldats tués au combat extérieur, eh bien, j'ai la sensation qu'il manque quelqu'un. L'assassinat politique de Louis XVI a non seulement aboli le sacré, mais nous a tous rejetés dans l'amnésie collective, laquelle se poursuit à grand train, avec le remplacement de la nation par le label de la République. Le jour où on en a coupé la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille, disait Balzac. Et lorsque Raymond Poincaré évoquait un suicide collectif, sans doute ne prévoyait-il pas l'hystérie des valeurs républicaines avec la révolution de civilisation qu'on nous inflige actuellement. Or, ce qui est républicain n'est pas forcément français, et les valeurs républicaines ne sauraient remplacer la France. La République est un système provisoire de gouvernement, rien de plus. Faire passer la République avant la France est un malheureux héritage dont nous souffrons tous depuis deux siècles. Patrice de Méritens poursuit. Certes, mais comment peut-on être royaliste aujourd'hui ? Outre le fait que la totalité des monarchies occidentales sont des démocraties qui fonctionnent au mieux, l'idée royaliste n'est pas qu'un concept de gouvernement. Elle porte en elle la majesté, l'éthique morale, le sens du sacré et le respect qui se déclinent du haut en bas de la pyramide. La royauté, dit Raspail, c'est la légitimité que l'on a vue à l'œuvre lors de la Seconde Guerre mondiale avec la Grande-Bretagne unie autour de son souverain et de sa famille, tandis que s'effondrait notre République. Alors, je suis farouchement patriote. J'éprouve aujourd'hui un certain malaise à être français, comme un mélange de fureur et de dégoût, mais aussi de tristesse. Tout n'est assurément pas perdu, mais nombre d'éléments de fondation ainsi que de charpente sont vermoulus, rongés par les vers. À titre personnel, dit Raspail, il est gratifiant de se dire monarchiste parce que c'est à la fois beau et inclassable. Depuis que je me proclame tel, on ne me traite plus jamais de fasciste. Dieu sait si j'ai eu droit à toutes sortes de qualificatifs durant ma vie d'écrivain. Pour des livres dont on vérifie hélas aujourd'hui qu'ils étaient prémonitoires. Mais maintenant, tranquille. Il y a dans la grandeur et l'excentricité du royaliste quelque chose qui frappe de stupeur les énervés. Je recommande à toute personne lucide qui ne craint pas de dire la vérité de s'affirmer monarchiste. Ne serait-ce qu'une seconde. Cela vaut une éternité. Et croyez-moi, c'est délicieux. Demain, un roi, Orléans ou Bourbon? Philippe Égalité est une tache sur les Orléans qu'ils n'arriveront jamais à effacer. Quant aux Bourbons d'Espagne, depuis la mort d'Alphonse, duc de Cadix, décapité en 1989 par un filin d'acier sur une piste de ski, quel symbole! Force est de reconnaître qu'aucun n'a l'envergure nécessaire. Qui, parmi les éventuels prétendants des deux branches, s'est montré à la hauteur quand le pays a été secoué par le terrorisme en janvier dernier? Pas un. Et pourtant, celui qui aurait su trouver les mots pour s'adresser à la nation aurait eu un boulevard d'opinions. J'ai écrit un livre, dit Raspail, qui s'adressait à eux, le roi, au-delà de la mer. Leur problème est qu'ils se contentent de durer, en étant persuadés qu'ils n'arriveront à rien. Ils n'y arriveront justement pas parce qu'ils ne le veulent pas. C'est un cercle vicieux. Je ne peux rien, donc je ne veux ni ne fais rien. Quand on représente une cause presque perdue, perdu, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter la dernière sortie, faute de quoi l'on meurt de vieillesse, triste, au fond de la forteresse oubliée que personne n'assiège plus, parce que la vie, tout simplement, s'en est allée ailleurs. Sans doute me trouverez-vous d'une naïveté terrifiante. Sire, dit Ronsard au jeune Charles IX, ce n'est pas tout que d'être roi de France. Il faut que la vertu honore votre enfance. On peut être monarchiste quand on pense à cela. Finalement, je finis par être un royaliste hors sol, comme on dit aujourd'hui. Je rappelle que cette interview de Jean Raspail, écrivain et explorateur qui a publié 5 de ses romans de voyage et d'aventure plus un inédit dans la collection Bouquins sous le titre « Là-bas, si loin » chez Robert Laffont, répondait aux questions de Patrice de Méritins pour Le Figaro. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée et mise en musique par Roland Richard dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.